哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12. Ce mois-ci, Palestine et culture.
Dès 1997, il est clair qu'Israël ne veut pas d'un État palestinien à ses côtés et se prépare à nouveau à l'affrontement.
Cette voix, c'est celle d'Hervé Hoth, qui s'est éteint à l'automne dernier. Militant de tous les combats anticolonialistes, notamment pour la Kanaky et la Palestine. Il fut investi dans Palestine 12 jusqu'à la fin. Nous profitons de cette émission pour lui rendre hommage.
آه يا حلو ويا مسلين
Qui a oublié les indignations, à juste titre, de nos grands médias à propos de la destruction des Bouddhas de Bamiyam ou des bibliothèques de Tombouctou? Nous étions tenus au courant du désastre heure par heure. Aujourd'hui, quelle chaîne de télé ou radio nationale nous informe sur la destruction du patrimoine palestinien? Or, la destruction du patrimoine culturel est condamnable par la résolution 2347 du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2017. Lorsqu'on aborde la notion de génocide, on pense de suite à l'élimination physique de groupes humains. Concernant la Palestine, outre le désir de la part de l'État israélien de rayer de la carte ce territoire et de se débarrasser de ses habitants, il y a la volonté d'effacer toute mémoire de ce peuple, et ce, depuis la création de l'État. Golda Meir, ministre du premier gouvernement des 48, disait « Les Palestiniens n'existent pas ». Pour définir cette situation, nul n'est besoin de la qualifier de sociocide. Le terme apparaît d'ailleurs quelquefois. Cela n'est pas la peine de rajouter une nouvelle notion qui risquerait d'embrouiller le problème, puisque la volonté de désintégration de la culture est déjà inclue dans la définition de génocide, donnée dès 1942 et qui sert de base au droit international. Et c'est un aspect, semble-t-il, quelque peu oublié de ce que vit le peuple palestinien au niveau de sa culture et de la répression dont il est l'objet. Quand on parle de culture, c'est au sens général. On pense tout d'abord aux arts, mais la culture, c'est aussi la langue, l'histoire, tout le patrimoine architectural, religieux, culinaire, mémoriel, etc. Or, depuis la création de l'État israélien, ce dernier se comporte en oppresseur colonial dans tous ses aspects. C'est bien sûr, nous le savons, un colonialisme de peuplement, c'est-à-dire confisquer un maximum de territoires en déportant les populations autochtones, voire en les poussant à l'exil dans des pays étrangers. Mais comme tout colonialisme, pour assurer sa suprématie, la domination physique ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir dominer les esprits. Et pour cela, la tentative d'anéantir toute mémoire du peuple opprimé est une obsession récurrente. l'idée d'éradiquer la culture dans toute la Palestine historique s'inscrit dans un schéma de longue date de destruction culturelle, alimentant la logique du colonialisme de peuplement, visant à éliminer de la terre tous les aspects d'un peuple et de son identité. Contrairement à ce qui a pu se produire dans le passé avec d'autres formes de colonialisme, on pense à l'Espagne ou au Portugal, qui ont tenté de convertir les peuples dominés, pour l'idéologie sioniste, la question ne se pose pas. Aucun contact, ne serait-ce que spirituel, avec les groupes dominés. Pas de mélange non plus avec d'autres communautés, physiquement trop différentes, y compris lorsque celles-ci pratiquent les rites hébraïques, et c'est le cas pour les Felasha, originaires d'Éthiopie, mais un peu trop noirs de peau. Cela n'empêche pas, ça encourage même, de s'attaquer au symbole religieux de celui qui est considéré comme l'ennemi à éliminer. Bien sûr, ce qui vient directement à l'esprit concernant cette contrée du monde, c'est l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam, et objet de toutes les provocations des différents gouvernements israéliens. La première de ces provocations étant les restrictions pour les Palestiniens et Palestiniennes de s'y rendre. Mais les musulmans ne sont pas les seuls à pâtir de la domination sioniste. Nous avons pu le constater dès l'hiver 2023 à Gaza, où des églises ont été détruites aux alentours de Noël. Citons par exemple le cas de l'église grecque orthodoxe Saint-Porphyre, qui aurait été bâtie par les croisés aux alentours de 1150. Elle est considérée comme la plus ancienne église de Gaza, est l'une des trois plus anciennes de par le monde, si ce n'est la plus ancienne. La façade a été endommagée par un bombardement et un bâtiment du complexe religieux s'est effondré. Fin 2023, comme fin 2024, on pouvait au moins espérer une trêve de 24 heures, comme cela a pu exister dans certaines guerres. Il n'en fut rien. L'armée israélienne ne connaît pas de relâche. Le pape a même été critiqué par l'entité sioniste en Israël et dans le reste du monde pour avoir appelé à la paix. Aux yeux de ces sionistes, avoir ne serait-ce qu'une parole d'apaisement pour un peuple en butte à un génocide reflèterait déjà une posture antisémite. Quant aux mosquées, inutile de préciser quel put être leur sort. L'imposante mosquée Sayed al-Hashem de Gaza, avec son esplanade, entourée de galeries et qui abrite le tombeau de l'arrière-grand-père de Mahomet, a été partiellement endommagée par un bombardement direct. On pèse le symbole visé. La mosquée Sheikh Shaabon, la mosquée Al-Dafar d'Amri à l'est, la mosquée Khalil Al-Rahman au sud, le sanctuaire Al-Qader au centre, sur tout le territoire de Gaza, les sites les plus importants ont été visés. Quant à la grande mosquée Al-Omari, qui compte parmi les édifices les plus importants de la bande de Gaza, elle a été fortement endommagée. Ce site a peut-être abrité un temple philistin. Il a été occupé par une église byzantine datant du 16e siècle, transformée en mosquée au 7e siècle et au 12e siècle, et au XIIe siècle, a été bâtie une nouvelle église à cet endroit par les Templiers, avant que les Mamelucs n'y reconstruisent une mosquée. Mais ce patrimoine religieux ne doit pas cacher un patrimoine archéologique plus général, comme par exemple l'ancien port d'Antédon. Précisons que ce port était une cité antique qui fut active de moins 800 jusqu'à 1100 de notre ère. Il était doté d'une construction byzantine, bâtie sur des vestiges romains et assise sur des restes d'art et d'industrie de l'âge de fer. C'est l'un des trois sites de Gaza inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et qui a été considérablement touché par les bombardements. Thank you. Gaza est l'une des villes les plus anciennes du monde, puisqu'elle a été soumise à la domination des pharaons, des Grecs, des Romains, des Byzantins, puis de l'ère islamique. La liste serait incomplète si l'on ne mentionnait pas les musées comme celui de Rafah, dédié à l'enseignement du patrimoine multiculturel de la bande de Gaza, qui abritait des pièces de monnaie inestimables, des pierres précieuses et toutes sortes d'objets remontant à l'époque où la région était une plaque tournante du commerce et de la culture sous l'Égypte. Aussi le musée d'histoire et d'archéologie Al-Qaharah, dont la collection comprenait des antiquités de la période byzantine et dont le bâtiment et la collection ont subi d'importants dégâts lorsqu'un missile a frappé une maison adjacente. Notons que les frappes aériennes israéliennes n'ont pas épargné l'Institut français de Gaza, construit sur un terrain offert par l'ancien président Yasser Arafat à l'ancien président de la République Jacques Chirac. La France est le seul pays étranger à entretenir un lieu culturel à Gaza. Dès l'hiver 2023, c'était déjà 200 sites archéologiques et patrimoniaux sur 325 dans la bande de Gaza qui ont été ciblés et détruits par l'armée israélienne. Un exemple parmi tant d'autres, le site archéologique de Tel Es-Sakan, qui se trouve au sud de la ville de Gaza, est partiellement endommagé. Ce site fouillé par les archéologues palestiniens et français abritait ce qu'on pense être une colonie rare de l'âge du bronze, vieille de 4500 ans. Le vandalisme des institutions palestiniennes et la destruction des biens culturels palestiniens dès 1948 ont laissé la Palestine dans un état que des chercheurs ont appelé « vide culturel ». Plus tard, en 1967, après l'occupation de Jérusalem-Est, des dizaines d'objets d'art ont été retirés du musée archéologique palestinien de Jérusalem-Est et envoyés au musée israélien de Jérusalem-Ouest. En 2002, lorsque la construction du mur de séparation a commencé, on estime que 1100 sites archéologiques et monuments palestiniens ont été détruits par la construction du mur, tandis que des centaines d'autres ont été entièrement coupés et annexés à l'Israël. Au-delà de la spoliation territoriale, c'est aussi une guerre menée contre l'art, la littérature, le cinéma, par une stratégie d'effacement de la mémoire collective. Et cela, même en dehors des frontières, comme lors de l'invasion de Beyrouth en 1982, où siégeait l'OLP, Organisation de libération de la Palestine. L'armée israélienne ravagea le centre d'études palestiniennes et s'empara de nombreux biens culturels et artistiques, ainsi que nombre de films palestiniens entreposés à la Cinémathèque de Beyrouth. Cette volonté d'anéantissement de la mémoire traverse les mers et les océans. Aux USA, la plasticienne américaine Tosha Shmirmaj a déchaîné les passions, y compris dans la presse en Israël, pour son exposition « Personne ne nous écoute ». Au musée juif contemporain de San Francisco, de février 2022 à juin 2023. Fort heureusement, la direction du musée et le personnel ont estimé que les œuvres avaient toute leur place. En revanche, à Chicago, en 2008, le Centre culturel d'études juives a dû annuler l'événement quelques semaines après l'inauguration. La communauté juive locale n'acceptant pas la présence de cartes de la Palestine historique et des photos de ses habitants. Lors de la seconde intifada, de 2000 à 2005, les chars de l'armée, à Ramallah notamment, avaient détruit sur leur passage maisons, commerces, mobilier urbain, ainsi que près d'un millier de véhicules. L'artiste palestinienne Vera Tamari, qui avait assisté à ces scènes du haut de son balcon, avait fait disposer une série de véhicules disloqués le long d'une bande d'asphalte. Le jour de l'ouverture de l'exposition, les chars israéliens réduisent en miettes les véhicules. Des soldats urinent même sur les débris. Grande admiratrice de Marcel Duchamp, l'artiste filme la scène à l'insu de l'armée et en fait une sorte de happening. Avant les accords de paix de 1993, les territoires occupés ne comptaient aucune galerie officielle. Des artistes furent même arrêtés pour avoir introduit dans leurs œuvres une combinaison de couleurs jugée trop proche de celle du drapeau palestinien. Mais la France n'est pas en reste. En 2013, la photographe palestinienne Alam Shibli provoqua notamment les foudres du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, en exposant des portraits de défunts lors de la seconde intifada. Menaces qui se traduisirent entre autres par des alertes à la bombe. Quant au palestinien Taizir Batniji, en France depuis 2006, après être passé par les Beaux-Arts de Bourges, il est toujours dans la possibilité de présenter ses œuvres dans certains établissements culturels français. Nous venons de parler de la non-reconnaissance du passé, de la négation de la vie au présent. Mais pour l'entité sioniste, cela ne suffit pas. Il faut étouffer toute velléité du peuple palestinien d'imaginer un quelconque avenir. Cet avenir, depuis très longtemps, malgré les difficultés qui semblent insurmontables, les Palestiniens et les Palestiniennes ne cessent d'y croire. Pour cela, ils ont compris que l'avenir passe avant tout par les enfants et la jeunesse. C'est pour cette raison qu'ils misent sur l'importance de l'éducation. Un peu comme les Juifs en diaspora qui n'avaient pour toute richesse que leur bagage intellectuel. Quelles que soient les difficultés, barrages de contrôle, bombardements, routes coupées, tant que cela est possible, les enseignants assurent leurs cours, les enfants vont à l'école, les étudiants en fac, parfois au prix de leur vie. C'est ainsi que la Palestine, malgré le manque de moyens, est parmi les pays qui possèdent notamment les meilleurs médecins au monde. L'ennemi l'a bien compris, qui tente d'entraver au maximum toute expression pédagogique et culturelle de la jeunesse palestinienne. Nous citerons ici l'exemple du Freedom Theater, le Théâtre de la Liberté, qui est implanté dans le camp de Jenin et qui travaille avec des jeunes, voire des enfants. Cet espace, lieu culturel connu et reconnu internationalement, est en but à une répression continue depuis des années. Arrestations, emprisonnements, jusqu'à l'assassinat de plusieurs membres de la troupe et de leurs proches. Récemment, ils se sont vus dans l'obligation d'annuler leur tournée en novembre et décembre 2024 dans plusieurs villes de France et de Suisse. Il y a un aspect aussi que je voudrais aborder en deux mots, c'est la culture culinaire. Eh bien aujourd'hui, les Israéliens confisquent les recettes palestiniennes en disant que ce sont des recettes israéliennes. Ça va même jusqu'à une spécialité typiquement palestinienne, le sa'atar. Alors le sa'atar, on en mange partout là-bas en Palestine, quelquefois, il n'y a que ça à manger. C'est une espèce de poudre à base de thym, de sumac, et on récolte ces herbes dans la nature. Eh bien, le pouvoir israélien a décidé que les Palestiniens détruisaient la nature et, par souci écologique, on leur interdit d'aller cueillir ces plantes qui font partie de leur culture ancestrale. Si on est pris à cueillir ces plantes dans la nature, on risque une grosse peine d'amende et si on n'a pas les moyens de payer, c'est l'emprisonnement. Alors après, si l'on considère le sport comme une pratique culturelle, ou du moins éducative, celle-ci est tout aussi entravée par les autorités israéliennes. Les sportifs de Gaza ne peuvent se rendre dans le reste de la Palestine et vice-versa. Lorsqu'à Millau, nous avons reçu une délégation de footballeurs gazaouis, tous unijambistes, à l'occasion du film « Gaza, balle aux pieds », c'était la première fois qu'ils quittaient l'enceinte de la bande. Précisons que Gaza est l'endroit du monde où il y a plus de 8000 estropiés à vie dus aux tireurs d'élite qui visent la tête ou les genoux. Certains documents ont montré des soldats se réjouissant d'avoir eu 48 rotules dans la journée. La guerre contre Gaza a été l'occasion de raser les installations sportives et nombre de sportifs, y compris de haut niveau, ont été tués. Citons ici le cas de Mohamed Khatib, arbitre de football, accrédité par les fédérations asiatiques et internationales de football, tué avec 22 membres de sa famille lors d'une frappe aérienne en février 24. Ou aussi celui de Nagam Abu Smara, ceinture noire de karaté, qui, à 24 ans, devait représenter la Palestine aux JO et qui a succombé à ses blessures un mois après le bombardement de sa maison en décembre 23. Pour terminer, nous avons envie de dire qu'il ne prend pas en compte 76 ans de répression, de spoliation, d'enfermement, de torture, mais surtout trois quarts de siècle de mépris et d'humiliation, qui ne prend pas en compte cela, s'interdit tout simplement de comprendre ce qui s'est passé la journée du 7 octobre.
Le grand philosophe juif Martin Buber déclare « Nous devrons affronter la réalité qu'Israël n'est ni innocent, ni rédemptif, entendons par là pardonnable, et qu'à sa création et dans son expansion, nous, en tant que juifs, avons créé ce dont nous avons historiquement souffert, une population de réfugiés en diaspora. » La 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 la
اه يا حلو او يا مسليني يا اللي بنار الهجر كاويني اه يا حلو او يا مسليني يا اللي بنار الهجر كاويني الا المدام يا جميل وسقيني يا عين من كتر شو
I'm gonna.